paramètre. Et où vous croyez-vous ?
À l'Opéra, maître.
L'Opéra de Paris, toute une histoire. Premier épisode, 1669, la naissance. Je sous-signé Louis, roi de France et de Navarre, déclare. Notre aimé et fidèle Pierre Perrin nous a très humblement fait remontrer que, depuis quelques années, les Italiens ont établi diverses académies dans lesquelles il se fait des représentations en musique qu'on nomme opéra. Que ces académies font à présent les plus beaux spectacles et les plus agréables divertissements. Que ceux qui font les frais nécessaires pour les dites représentations se remboursent de leurs avances sur ce qui se reprend du public à la porte des lieux où elles se font. Et que, s'il nous plaisait de lui accorder la permission d'établir dans notre royaume de pareilles académies, il espère que non seulement ces choses contribuerait à notre divertissement et à celui du public, mais encore que nos sujets, s'accoutumant au goût de la musique, se porteraient insensiblement à se perfectionner en cet art, l'un des plus nobles des arts libéraux. Nous avons, au dit Perrin, accordé et octroyé par ses présentes, signé de notre main, la permission d'établir en notre bonne ville de Paris et autres de notre royaume une académie composée de tel nombre et qualité de personnes qui la visera pour y représenter et chanter en public des opéras et représentations en musique et en vers François. Signé Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Les termes sont clairs, le rayonnement de la France est en jeu, et c'est Louis XIV qui le dit. Nous sommes en 1669. Pour sauver la France de l'invasion culturelle par les Italiens, le jeune roi veut frapper fort. Mazarin est mort, Fouquet est aux arrêts, son absolutisme peut s'affirmer dorénavant avec éclat. Et ce jeune Louis XIV, qu'on a vu naguère danser dans son costume du soleil, le ballet royal de la nuit, compte bien éblouir son peuple et les souverains étrangers qu'il reçoit. En ce sens, tout l'intéresse. La chasse, bien sûr, mais aussi l'architecture, les jardins, les sciences, la stratégie, la philosophie, les mathématiques, la peinture et, bien sûr, la danse, le théâtre et la musique. En toute chose, Louis sait s'entourer des meilleurs. Molière et Lully sont déjà très actifs auprès de lui. L'agrandissement du château de Versailles est déjà bien avancé et il sait quelles armes merveilleuses sont les beaux-arts. La France, sous son règne, doit faire l'admiration de tous. Notre aimé et fidèle Pierre Perrin, écrit donc Louis XIV dans cette lettre patente du 28 juin 1669. Pierre Perrin. Qui est-il donc, cet inconnu, suffisamment illustre en son temps pour que ce soit à lui très personnellement, voire chaleureusement, que le roi soleil Louis XIV accorde son privilège royal? Car oui, c'est bien à lui qu'incombe la charge de fonder cette nouvelle institution prestigieuse, une académie d'opéra à la française. Pierre Perrin est lyonnais. Poète aux mille talents, dramaturge, librettiste, on le voit tôt à Paris prêter sa plume aux musiciens, et non des moindres. À Robert Cambert, avec lequel il compose la pastorale d'ici en 1659, à Jean-Baptiste Boessé, fils d'Antoine et maître de la musique du roi, ou encore à Lully lui-même en 1668, pour un motet, Plaude lettere Gallia, à l'occasion du baptême du dauphin. Ah ah, Lully! Perrin ne le porte pas dans son cœur, et s'il avait su, lui aurait-il prêté le moindre souffle de sa muse à cet usurpateur? Une fois la lettre de Louis XIV publiée, Perrin se met en quête d'un lieu propice. Dès décembre 1669, il en tient un, du moins à ce qu'il croit. Ce sera la salle du jeu de paume du Becquet, au croisement des rues de Vaugirard et des Francs-Bourgeois. Mais les fonds lui manquent cruellement pour faire de ce lieu sportif une salle de spectacle à la hauteur des attentes. Et c'est là que Pierre Perrin commet l'erreur fatale en faisant confiance à deux personnages peu scrupuleux, le marquis de Sourdéac, machiniste et entrepreneur de spectacle, et surtout le sieur de Champron, un financier véreux. À grands frais, la salle de jeu de paume est métamorphosée en théâtre. La première représentation privée de l'Académie d'Opéra a lieu en juin 1670. Au programme, Pomone, opéra en un prologue et cinq actes, dont Pierre Perrin a composé le livret, mis en musique par Robert Cambert. Thank you. tout, semble-t-il, avait bien commencé. Hélas, au lendemain de la représentation, premier coup de théâtre. Un lieutenant de police, un certain Larigny, met fin aux festivités, et pour cause. Les associés, dans leur empressement, se sont tout bonnement dispensés de demander les autorisations de police nécessaires à l'occupation de la salle. Tout le monde est expulsé manu militari. Or, pas de représentation publique, pas de rentrée de fonds. Pierre Perrin et ses acolytes doivent vite se retourner. Prenant la balle au bon, ils jettent leur dévolu sur une autre salle de jeu de paume, celle dite de la Bouteille, rue des Fossés de Nesle, aujourd'hui rue Mazarine. Et les travaux recommencent. Le 3 mars 1671, Pomone peut enfin y être donné publiquement. L'ouvrage va obtenir un succès éclatant et tenir l'affiche 13 longs mois pour plus de 145 représentations. Pomone, premier opéra en langue française. Pomone, fruit trop vite mûri, qui tombera peut-être dans un oubli injustement mérité, sans que le roi, d'ailleurs, lui ait fait l'honneur de sa présence. Car voilà que survient un deuxième coup de théâtre. Incapable d'éponger les sommes astronomiques engagées pour l'aménagement de ces deux salles, Perrin comprend vite que ses deux associés, plus habiles que lui en affaires, le lâchent. Il est mis aux arrêts et jeté en prison pour dette. L'histoire, on le sait, ne pardonne pas aux perdants. En mars 1672, voici Pierre Perrin destitué de son privilège royal. La cour de France était un lieu d'intrigue parfait, où Pierre Perrin n'avait pas que des amis parmi ses connaissances. Aux aguets, monsieur le surintendant de la musique royale, le fameux Lully, renifle là le fumet de l'opportunité. Il avance une main experte et rafle la mise. Voilà le titre qui manquait à son escarcelle, pourtant déjà bien garnie, celui qui va lui octroyer un monopole parfait, lui garantir une triomphale suprématie. Lui, Jean-Baptiste Lully, fils de meunier florentin, né Giambattista Lully, arrivé en France en modeste courtisan et qui, armé de son seul violon, de sa grâce de danseur et d'une ambition dévorante, a déjà gravi 4 à 4 les échelons de la gloire. Lully va devenir par ce titre, en cette année 1672, pour le monde de la musique, l'alter ego de son solaire monarque, un autocrate omnipotent. Se veut plus français que les Français. Il trouve que ce titre d'Académie d'Opéra sonne trop italien. Pour un roi de France, Académie royale de musique, c'est beaucoup mieux. Il est temps de bouter l'italien hors de France et d'inventer, en tout cas de prétendre inventer, un nouveau genre à soi. Pour voir plus loin, Lully va bientôt faire quelques concessions. Il négocie et accorde aux plus offrants l'autorisation de fonder ici ou là une académie de musique en province, à Marseille, à Lyon, à Bordeaux par exemple, mais il se réserve la part du lion. Pour régner en maître, Lully fait immédiatement interdire toute représentation de la pomone de Cambert et Perrin et laisse ce dernier sombrer dans ses embrouilles financières. Il ne l'aurait d'ailleurs pas beaucoup gêné, ce malheureux Perrin, car celui-ci va mourir en 1675. Puis, le surintendant se déleste de Molière. Oui, ce bon Molière, avec lequel il a collaboré pendant des années, avec lequel il a créé la comédie-ballet le temps de quelques chefs-d'œuvre. Molière, enfin, avec qui Lully vient, en 1671, débaucher les courbes de la future tragédie lyrique, Psyché, à laquelle Corneille et Quino ont également apporté leur concours. Mais il veut déblayer le terrain, concentrer les troupes. Quino, Philippe Quino, c'est le seul que retient Lully, qui voit en lui l'associé idéal, suffisamment exercé en son art, mais encore dans une ombre relative, n'étant ni un Racine ni un Molière. Son aura n'est pas menaçante, en somme. Quino se pliera au vu de Lully. Ensemble, ils conçoivent et montent Cadmus et Hermione, le premier opéra français, ou plutôt la première tragédie en musique. En ce 27 avril 1673, admirons l'industrie du surintendant Jean-Baptiste Lully qui crée l'événement en faisant venir Louis XIV en personne, son roi, dans cette même salle du jeu de paume du Becquet. Oui, cette même salle où Pomone s'était fait entendre pour la première fois, 3 ans plus tôt, celle-là précisément dont s'était fait expulser le pauvre Perrin, tout un symbole. Ce dernier n'avait pas eu l'heure d'y recevoir le roi Soleil, et ce soir, c'est la cour au grand complet qui se passionne pour la conquête de la fille de Mars, Hermione, par Cadmus, prince de Phénicie. La cour s'enflamme pour les somptueuses machines de l'excellent Carlo Vigarani, que s'est judicieusement adjoint Lully et qui achève de faire de cette création de Cadmus et Hermione un spectacle total. On crie au triomphe et dès le lendemain, branle-bas de combat, nouveau changement de décor. Sa Majesté, qui a pris la mesure de ce que ce nouvel art, l'opéra, pouvait lui apporter, a aussi pris acte des belles ambitions de son surintendant, et elle lui accorde de quitter le jeu de paume pour lui octroyer rien moins que la salle du palais royal. On va déloger la troupe de Molière elle-même, laquelle se relève à peine de la mort de son patron 2 mois plus tôt, elle qui jouait là depuis 1660. Qu'importe, on démonte, on remonte, sans trop d'état d'âme, Lully jubile, il a trouvé son lieu. L'Académie royale de musique a désormais le corps où loger son âme, et pour un bon moment. se fait pour son roi l'architecte d'un palais musical dont la prestance et la grâce se prétendent sans égale. Mais cette tragédie en musique n'a pas surgi de nulle part. Les fondations en sont multiples, profondes. La tragédie classique avant tout, mais encore l'air de cour, le ballet de cour, la pastorale, la comédie-ballet, l'opéra-ballet. Et hop, feu de tout bois, refonte générale. Voici ce qu'il en extrait. Une ouverture, un prologue, cinq actes. Une puissance dramaturgique renouvelée, des lignes de force pures et simples, une écriture orchestrale saisissante. Le grand maître S. Synthèse, ayant édifié son bâti, il peut dès lors le décliner en variations multiples et tous les ans, infatigable, ajouter une pierre à l'édifice, aidé en cela de son fidèle librettiste Kino. Après Cadmus viendront Alceste, Thésée, Attis, Isis, Psyché, Bellérophon, Proserpine, Persée, Phaéton, Amadis, Roland et enfin Armide. Les années passent. L'inspiration de Lully n'a pas faibli, loin s'en faut, mais le roi, lui, s'en est détourné. Son goût pour la tragédie en musique, pour l'opéra en général, suit naturellement le mouvement de son âme et de sa politique, qui se raidit en ces dernières années de règne. En 1686, le roi Soleil ne daigne pas honorer de sa présence la création d'Armide. Les mœurs de son surintendant ont trop fait parler de lui récemment. Il le jette en disgrâce. Il ignore alors que Kino, lui aussi préoccupé de son salut, va quitter le théâtre profane et mettre fin à cette géniale collaboration. Il ignore surtout qu'un an plus tard, par une sorte d'acte manqué tragicomique, Lully va se blesser à mort en s'envoyant ce fatal coup de canne d'apparat dans le pied. L'Académie royale de musique lui survivra en sa salle du Palais royal jusqu'en 1763, mais aussi et bien davantage à travers le genre même de la tragédie en musique. Vont s'y illustrer les noms de Marc-Antoine Charpentier, Henri Desmarais, André Campras, Marin Marais ou encore Élisabeth Jacquet de la Guerre. Pourtant, aucun de ceux-là, il faut bien l'admettre, n'y brillera du même éclat que Lully. Jusqu'à l'apparition, dans une splendeur de crépuscule, d'un certain Jean-Philippe Rameau. Thank you.
L'Opéra de Paris, toute une histoire. Jérémy Rousseau, France Musique.
Lully, l'homme fort de ce premier épisode, l'homme fort de l'Académie Royale de Musique, le voici dans un bouquet de ses plus belles pages.
tous les cœurs dans une paix, dans une... Thank you.
Nous avons écouté des extraits d'Isis, Attis, Armide, Alceste et Persée de Lully, ainsi qu'Alcyone de Marin Marais. Toutes les références à retrouver sur francemusique.fr. C'était l'Opéra de Paris, toute une histoire, émission préparée par Marion Guillemet, prise de son et mixage Jean-Michel Bernaud, réalisation Claire Lagarde. Demain, deuxième épisode, la vraie nature des bouffons.
France Musique, c'est l'été.